au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que c'est quatre fois plus chaud que ça l'était il y a quatre mois. Tiens, voilà, j'ai trouvé une nouvelle réponse. Oh, c'est pas fort. Je vais me forcer plus la semaine prochaine. On a un petit congé la semaine dernière, ça fait qu'on est de retour après deux semaines. Et l'émission, donc, aujourd'hui, en ce 25 mai, hein, la semaine prochaine, c'est juin. Alors, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors aujourd'hui, juste pour vous dire rapidement la météo, ben c'est dans le sud du Québec, il va pleuvoir encore un petit peu avec de la bruine jusqu'en après-midi, ça se dégage. On pense qu'il y aura des passages de soleil, tiens, au lieu de dire des passages nuageux, et ça peut aller jusqu'à 22 degrés à Montréal. C'est plus frais et ça reste brumeux, pluvieux dans l'est et dans le nord du Québec avec des températures moins élevées, autour de 10 degrés. L'Ontario dans l'est, ben la pluie résiduelle, eux autres, ça tue plutôt que nous, et puis le ciel variable commence en après-midi avec des températures maximales saisonnières autour de 18. Et puis, c'est plus chaud dans le sud, même condition. Le nord ontarien, c'est de la pluie, de la bruine, du brouillard. Et on est autour de 4 degrés Celsius. Dans les provinces de l'Atlantique, c'est de la pluie. De la pluie avec 14 degrés. Ça va se dégager à Terre-Neuve et Labrador un peu plus tard avec 18. Et dans les provinces des prairies, si vous voulez avoir de la chaleur, c'est là que ça se passe. On parle de 24 à même 30 degrés par endroit, mais des orages en fin de journée. Puis en Colombie-Britannique, bien, faire changement, il va y avoir de la pluie là-bas. C'est plus chaud sur la côte qu'à l'intérieur. Et donc, une belle émission aujourd'hui. Puis on va dire bonjour à nos chroniqueurs, chroniqueuses. Salut Louis de Bernis.
Bonjour Denis Martin.
Salut Daniel Rioux.
Bonjour Denis Martin.
Et puis allô Mathieu qui est à la régie. Comment ça va Mathieu?
Qui espère demain néglige aujourd'hui.
Bon, voilà. Il nous en a sorti une autre. On va commencer par toi, Daniel. Tu parles de quoi, ta chronique, aujourd'hui?
Ben, aujourd'hui, je vous parle de la vie. Est-ce que la vie... pour poser la question, pourquoi que la vie est si compliquée?
Oui.
Dans le magazine Philosophie, ailleurs dans le magazine, j'ai trouvé une autre question. Est-ce la vie qui est simple et nous qui sommes trop compliqués?
Je pense qu'ils ont raison.
Ils ont probablement raison. Puis là, le sujet de ma chronique, justement, c'est autour de cette vie compliquée à travers des expressions.
Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Et Louis de Bernis.
Deux insolites scientifiques, si on veut. Ce seraient les deux aux États-Unis. L'une, la première, sur une compagnie un peu controversée, on va dire, qui veut ressusciter un oiseau géant d'il y a 600 ans. Bon, pas sûr que ce soit une bonne idée.
Jurassic Park à nouveau.
Exactement, il y a des parallèles à faire. Et puis une autre expérience scientifique, si on veut, d'un homme aux États-Unis qui a pensé que sa Tesla pouvait nager, tout simplement. Et ça s'est forcément mal terminé. Il a essayé de franchir un lac. Je vous raconterai cette petite histoire.
Oui, c'est auto-électrique, hein? Et l'eau, l'électricité, bon, on verra ça. Et puis moi, de mon côté, je vous propose de parler de la nouvelle saison 26-27 du Théâtre du CEP. Une saison très intéressante où on va dans la solidarité et ça va être beau d'entendre tout ça. Je reçois Jean-Simon Traversy. Je vous dis tout de suite, hein, vous savez qu'il y aura la reprise, mais vraiment refaite, revisitée d'un tramway nommé Désir. Et puis on refait aussi la pièce de théâtre 24 portraits, 24 poses portraits, là, 24 images portraits, pardon. J'ai hâte de voir ça. Et bon, et plein d'autres choses. On va aussi parler du Festival Transamérique. Ça commence cette semaine. Et on va parler aussi d'un documentaire qui... faut vraiment écouter ça. Un documentaire sonore sur la solitude. Ça s'intitule pour essayer de m'entendre, hein, et pour mieux m'entendre, en fait. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça à l'émission. Et aujourd'hui, donc, c'est deux petites choses à célébrer. C'est la Journée mondiale de l'Afrique, marquant l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 63. Une journée pour promouvoir l'unité et le développement du continent africain qui en a grandement besoin. Et on va parler du Liban. Mon Dieu, ça va pas tellement bien au Liban ces jours-ci, mais c'est la journée de libération du Liban aujourd'hui. Donc, c'était pour célébrer le retrait des forces israéliennes du sud du Liban en 2000. Ben là, ils sont retournés, hein, après 22 ans d'occupation. On y va.
On rit, on chante, on se laisse aimer. Devant nous tirer des deux côtés, se rejoindre, se donner un souvenir d'un temps passé. On rit, on chante, on se laisse aimer. Devant nous tirer des deux côtés, se rejoindre.
passé. L'aime tes témoins, moi tes flancs, les rayons. Zamim tes frères, mais pique que tes pas. Nous t'es conjoué dans pas trop le prévôt. Baigné dans de l'eau, jeunesse c'est là. En fin de yo ta frère fait quand même. Yo t'es des os, barré pour yo. Nous pas qu'à rattraper tant qu'il perdit. Et c'est souvenir qui fait m'cara génie. Et si vous souriez, la vie a sourire. Où sont trésors, gardons dans mes wa. Faut qu'on connaît les gons bagay pour vous. Les concerts manquent, belles îles et précieux. Moi t'es senti tant que yon mouton noir. Coïncidence, moi son mon noir. Qui l'a joué, mais qui démêlo. Et ça qui est important, c'est présence, moi qui l'a.
On rit, on chante, on se laisse aimer. Devant nous tirer de deux côtés. Se rejoindre et se donner. Un souvenir d'un temps passé. On rit, on chante, on se laisse aimer. Devant nous tirer de deux côtés. Se rejoindre et se donner.
Moi c'est yo monde qui remet fait savon. Tout côté malé yo team senti bon. Voulez on comment nous mettre en numéro. Moi go malette l'idée yé couleur bleu. Semblé à glamour, plongé dans néant. Depuis petit musique li fait vibrer. La caille papa m'te kon gratte guitare. Kounia m'fè beat moi toujours veillé ta. L'aime t'es semé choré l'aime nek de la. Rap ça li fait voyager au delà. Moi quoi c'est sur la tête team bouche là. Les vibes sous musique mon chel sans débat. Et si ou pas quoi, mou mette m'en dévie. Ça c'est moun pam, nous t'es dans Cynix. Nous t'es fait mix depuis vendé. Downtown. Nous t'es désordre, mais mon chien nous fait comme. Hey.
On rit, on chante, on se laisse aimer. Les vents nous tirent des deux côtés. Se rejoindre, se donner. Un souvenir d'un temps passé. On rit, on chante, on se laisse aimer. Les vents nous tirent des deux côtés. Se rejoindre, se donner. Un souvenir d'un temps passé. On rit, on chante, on se laisse aimer. Les vents nous tirent des deux côtés. Se rejoindre, se donner. Un souvenir d'un temps passé. On rit, on chante, on se laisse aimer. De deux côtés, se rejoindre, se donner un souvenir de temps passé. Un souvenir de temps passé.
La chanson Souvenir de Wally.
Et puis dans les unes aujourd'hui, Radio-Canada, Le Devoir, fait un peu partout. Face à l'inflation, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, place la lutte contre le coût de la vie au sommet de ses priorités. Alors, Québec va abolir la TVQ sur certains produits essentiels du quotidien, tels les articles d'hygiène, pour alléger la facture des consommateurs et consommatrices. Cette mesure s'ajoute au maintien des tarifs réduits pour le renouvellement des permis de conduire. Toutefois, ces promesses intensifient les tensions au sein du gouvernement. Une lettre interne révèle que le ministre des Finances, Éric Girard, a formellement averti la première ministre que ses engagements de 330 millions de dollars dépassent la limite budgétaire autorisée à 250 millions, l'exhortant à une gestion plus responsable. Mais un peu plus tard, il s'est révisé publiquement pour affirmer que le Trésor québécois peut assumer ses coûts supplémentaires. Dans Le Devoir ce matin, exploit historique au Grand Prix de Montréal, en fait le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Le jeune prodige Kimi Antonelli a décroché la victoire sur le circuit Gilles Villeneuve sous une pluie battante qui a bousculé toutes les stratégies. Le pilote de Mercedes a magistralement déjoué les pièges de la piste pour s'imposer. Dans la presse plus, la crise du logement risque de s'intensifier au Québec en raison des coûts de construction. L'entrée en vigueur progressive du nouveau code de construction, incluant l'obligation d'installer des infrastructures de recharge électrique pour les multilogements et d'augmenter la capacité des panneaux électriques, va alourdir la facture des entrepreneurs. Ces nouvelles exigences réglementaires et énergétiques imposeront des coûts supplémentaires par unité, des frais que les promoteurs prévoient déjà refiler directement aux futurs acheteurs et locataires sous forme de hausse de prix. Le prix médian de logement neuf au Québec a bondi de 35 % au cours des quatre dernières années. Dans la presse plus, un programme phare pour prévenir l'itinérance chez les jeunes quittant la DPJ est brutalement freiné au Québec. Le projet Départ autonome, pourtant encensé pour son efficacité lors de sa phase pilote, est aujourd'hui victime de coupes budgétaires directes de la part du gouvernement. En sabrant le financement de cet accompagnement vers le logement, les études et l'emploi, Québec prive ces jeunes d'un filet de sécurité essentiel au moment de leur majorité. Les intervenants sur le terrain se disent désemparés face à cette décision qui risque de pousser de nombreux jeunes vulnérables vers la rue. Les jeunes issus du système de protection de la jeunesse représentent environ 20 % de la population globale des personnes en situation d'itinérance au Canada. Et puis, toujours dans Radio-Canada, les enquêteurs de l'Autorité des marchés publics et les vérificateurs du ministère de la cybersécurité et du numérique s'intéressent au projet de portail Votre Santé, c'est ce qu'a appris donc Radio-Canada. La compagnie Aquinox avait développé la solution informatique, mais Québec a renié le produit et demandé à la firme américaine Accenture, firme états-unienne, j'aurais dit Accenture, de refaire le travail sans appel d'offres. Votre santé est un engagement électoral de la coalition Avenir Québec. En 2022, le gouvernement promettait aux Québécois d'obtenir des rendez-vous médicaux en indiquant sur une plateforme virtuelle leurs besoins de santé pour qu'ils soient orientés vers la bonne ressource. Or, le déploiement du portail dans la province est toujours attendu. En coulisses, des sources impliquées dans son développement et sa surveillance dénoncent les irrégularités dans la gestion contractuelle. Le malaise est double. Le portail doit être recommencé et le mandat a été donné à une firme états-unienne qui n'avait pas soumissionné un appel d'offres prévu à cet effet. Santé Québec dit quand même que tout a été fait dans les règles. Quelques para-actualités maintenant. Radio-Canada.ca. Hier, une cinquantaine de participants ont parcouru 2 kilomètres dans le cadre de la marche qui roule à Trois-Rivières dimanche matin. Eh bien, la 4e édition de l'événement a réuni des personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs amis. L'ambiance était unanimement qualifiée de touchante et de rassembleuse par les participants et participantes, qu'elles soient ou qu'ils soient directement ou indirectement concernés par le handicap. L'ambassadrice de l'événement, Marisol Saint-Onge, explique que l'objectif de cette marche n'est pas de revendiquer pour la cause, mais plutôt de montrer de manière positive que ces personnes existent et font partie de la société. Des fonds ont été amassés lors de l'événement, notamment par l'entremise de certains kiosques, afin de soutenir des organisations venant en aide aux personnes en situation de handicap. Au Canada, selon les plus récentes données, environ 21%, soit une personne sur cinq de la population, vit avec un handicap. Toujours dans la presse plus d'hier, hospitalisée à domicile, Nathalie Sicard s'est donné la mort alors qu'elle réclamait de retourner à l'hôpital. Le coroner chargé de l'enquête n'a pas réussi à savoir pourquoi il n'y avait pas eu d'hospitalisation. Santé Québec et une psychiatre se portent quand même, quant à eux, à la défense du modèle décrit comme une voie d'avenir en psychiatrie. Souffrant de troubles de santé mentale sévères, Nathalie Sicard craignait pour sa propre sécurité et affirmait que le suivi virtuel et les visites à la maison ne suffisaient plus. Malgré ses appels à l'aide répétés et les avertissements clairs de ses proches, le personnel soignant a choisi de maintenir les soins à distance, jugeant que son milieu de vie restait l'option à privilégier. L'artiste et journaliste âgé de 57 ans a mis fin à ses jours chez elle à Montréal quand un proche l'a laissé seul un bref moment. C'était le 14 octobre 2024. Chargée d'enquêter sur le suicide, la coroner Annie-Claude Auger demeure à ce jour dans le brouillard quant au motif de l'équipe traitante qui relève du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal de maintenir le traitement à domicile malgré les demandes répétées de la patiente pour retourner à l'hôpital. La famille, plongée dans le deuil et la colère, dénonce une rigidité administrative et demande des comptes au système et se demandant même pourquoi les cris d'alarme de la victime ont été ainsi ignorés. Et toujours dans Radio-Canada, un centre de traitement des dépendances à Toronto déplore le manque de financement de la part du gouvernement provincial. Le Centre Renaissant, un organisme à but non lucratif, estime que cette insuffisance de financement entraîne des délais d'attente importants pour obtenir un lit et accéder aux soins. Les délais d'attente pour avoir accès à un lit peuvent s'étendre sur plusieurs mois, laissant de nombreuses personnes sans intervention rapide. Nous sommes en pleine crise de la toxicomanie, la crise des opioïdes a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a d'autres crises liées à la dépendance, à l'alcool et aux stimulants. Et c'est ce qu'affirme Michael Lauren, qui est le PDG de Renaissant. L'Ontario affirme avoir réalisé un investissement historique de 500 millions de dollars dans la construction de 29 carrefours d'aide aux sans-abri et à la lutte aux dépendances. Toutefois, la province a annoncé qu'elle mettra fin dès juin au financement de 8 sites de consommation supervisée de drogue, les forçant ainsi à former. Cette annonce fait craindre le pire à plusieurs défenseurs et professionnels de la santé.
Ferme les yeux juste le temps qu'on s'évade. Y'a plus de stress, de tempête, ce que t'entends, c'est les vagues. Mets la valise dans une main, sous les pieds, c'est la plage, ne t'en fais pas, ma jolie, c'est nos cœurs qui s'emballent. Oh. Et c'est fou combien t'es sexy. Et je te file depuis les one. Toi et moi, ce qu'on aime, c'est la best vie.
je vise des points sur la map. Le tour des presqu'îles, je t'amènerai partout. C'est l'amour en exil, suis-moi. Je te promets la vie de rêve, bébé, qu'on écrive notre histoire, qu'on traverse les frontières. C'est les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Vis le voyage jusqu'au bout et qu'on se raconte tous les deux. Ferme les yeux juste le temps qu'on s'évade. Y'a plus de presse, pas d'embûche. Ce que t'entends, c'est le calme. Mets ta tête sur mon cœur, sous tes yeux, c'est le large. Ne t'en fais pas, ma jolie, c'est l'amour qui s'en va. Ce regard dans le blanc des yeux, on fait l'amour et on se perd. Les réveils sont juste amour et on s'endort à Paris. T'es pas là, je trouve ça long. J'ai juste ça que t'arrives. Je te le dis pas à tous les jours, mais c'est que je te kiffe grave, bébé. Pas besoin de tous ces mots, on se comprend sans qu'on se pince. C'est les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Vis le voyage jusqu'au bout et qu'on se raconte tous les deux. Ferme les yeux juste le temps qu'on s'évade. Y'a plus de presse, pas d'embûche. Ce que t'entends, c'est le calme. Mets ta tête sur mon cœur, sous tes yeux, c'est le large. Ne t'en fais pas, ma jolie, c'est l'amour qui s'en bat.
Quand on se raconte une chanson de Kalem.
Bon, ben on s'en va faire un petit tour du côté de Daniel Rioux. Allô, Daniel.
Bonjour, Denis Martin.
Ah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Ben, c'est justement...
Tu m'avais demandé d'en trouver une, j'en ai une.
Oui, puis tout à fait. Puis pourquoi s'enfarger dans les fleurs du tapis, hein?
Oui.
continuellement s'enfarger là-dedans. Ben, c'est un article dans le qui a paru dans le magazine Philosophie. C'est le dossier de ce magazine qui s'intitule « Pourquoi te compliquant? On se complique la vie » et c'est du mois d'août 2025. Donc, ben, il a coupé les cheveux en quatre.
Ça s'appelle ça la tétracapilectomie.
Seigneur Dieu, c'est compliqué votre affaire, vous, là, là. Ben, écoutez bien, ben là, ça va peut-être être moins tétra, là, mais ça va être plus... Imaginez cette expression-là, elle date du 17e siècle.
Quand même.
On disait à l'époque fendre un cheveu en deux avant de parvenir à l'expression actuelle, c'est-à-dire couper les cheveux en quatre. Ça décrit pas l'art du coiffeur pour qui découper un long cheveu en quatre est un jeu d'enfant, hein, mais l'obsession de celui ou celle qui veut atteindre la perfection au prix d'une méticulosité extrême et qui complique tout. Mmh. On s'attache à des détails inutiles, on s'attelle à une tâche infinie, on est obnubilé par le désir de perfection et on oublie l'essentiel. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, en 1755, dans un de ses discours, disait qu'on fustige la passion moderne pour les techniques les plus sophistiquées, hein, modernes à l'époque, qui nous font oublier la richesse du rapport immédiat que nous entretenons avec la nature ou nos semblables. Plus simple, le conseil de Rousseau, ça va nous, on va mieux comprendre. Laissez vos cheveux tranquilles, ne cherchez pas la perfection et allez à la rencontre des arbres, des plantes, des animaux et des humains.
Mmh.
Hein, c'est pas mal, ça. Il y a aussi l'expression « chercher midi à 14 heures ».
Ah oui, quelle expression, oui.
Quelle expression. C'est une expression qui date encore aussi du 17e siècle, qui signifie « chercher une chose là où elle n'est pas ». Et au lieu de tendre la main et de profiter de ce qu'on a sous les yeux, on a souvent tendance à échafauder des hypothèses sophistiquées. Et ici, dans l'article, on donne l'exemple d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'intitule « La lettre volée » et qui est apparue en 1844. Ce sont des policiers qui fouillent de fond en comble un appartement à la recherche d'un document compromettant. Mais cette fameuse lettre volée, au lieu d'être dissimulée dans un endroit difficile à trouver, ben, la lettre avait été laissée tout simplement bien en vue dans un porte-document sur le bureau. Donc, il n'y avait pas besoin de fouiller de fond en comble les fameux policiers. Mais cette lettre nous dit que, au lieu de profiter du présent, nous allons devant de nous-mêmes vers un ailleurs plus palpitant que l'évidence de ce qui nous est donné. Blaise Pascal, lui, dans ses pensées, paru en 1670, on aime mieux la chasse que la prise. Donc, le divertissement, l'aventure, le plaisir angoissé de la quête nous éloignent de notre présence à nous-mêmes et aux autres. Plus simplement, pour nous tous, le conseil de Pascal, ne regardez pas l'heure qu'il est. Lâchez aussi votre téléphone, c'est ce que j'ajoute. Oubliez les choses à faire, vivez au présent. Ouais. Donc, c'est un beau conseil, ça.
Ben, tu sais, je t'interromps. Moi, tu sais, j'ai quand même plusieurs mandats en plus d'animer cette émission-ci. J'ai d'autres mandats dans la vie. Puis, tu sais, je me rends compte, des fois, j'ai beaucoup de choses à faire. Et au lieu de me stresser, je fais un... c'est fou ce que je dis, mais je rentre dans... Ben, justement, mon fameux téléphone, moi, c'est ça qui m'aide. J'ai un truc qui s'appelle Note, là. Et là, je rentre tout ce que je dois faire selon des catégories et je leur assigne une heure de tombée ou une date. Et là, je me dis, bien là, c'est cédulé, je vais faire ça demain. Et je dis à mon cerveau, t'arrêtes de t'en faire avec ça.
Excellent. Bien, c'est là qu'est utile le téléphone ou la liste, l'écrire à la main.
La liste aussi. Faire une liste des choses qu'on a à faire, puis de leur attribuer, voici, je fais ça demain, je fais ça après-demain. Oui. Moi, tu sais, le ménage, je le mets dans la liste des choses à faire. Puis je me dis, même si je dis que ça va être vendredi, tu sais, la poussière, là, elle va être encore le vendredi.
Oh, mon Dieu, ben oui. Puis tant qu'on n'écrit pas notre nom sur les meubles, tout va bien, hein? Tout va bien.
Ça, c'est trop drôle.
mais c'est justement, ça nous amène à l'expression suivante, sans faire toute une montagne.
Oui.
On imagine parfois qu'une prise de parole en public ou un engagement ou encore une explication sincère avec un ami va constituer des événements pénibles qu'il faut s'y préparer longuement, y arriver après de pesants efforts. On angoisse, on exagère les fameuses difficultés, on dramatise inutilement. Et c'est surtout la crainte d'échouer qui nous gâche l'existence et qui nous paralyse. Il y a le philosophe Alain qui, en 1921, disait que la peur est plus grande de loin, car on ne voit pas clairement et distinctement le moment désagréable que l'on devra traverser. Au contraire, on refuse de se représenter à l'avance les difficultés que l'on aura à vaincre, en avançant avec résolution vers le moment tant redouté, on remplace la peur par la perception de ce qu'on a à affronter. Bon, plus simplement, là, pour tout le monde, le conseil d'Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ayons pas peur, on s'y met, puis on fonce, hein? Pourquoi pas? Il y a aussi l'expression, ah ça c'est bien, se mettre la rate au courbouillon.
Ah, oh là là, je la connais pas celle-là.
Moi non plus, je la connaissais pas. Là, je vais vous la faire découvrir. C'est une sympathique expression qui sort tout droit d'un roman de Frédéric Dard en 1965. Et ça nous renvoie à la médecine de l'Antiquité. On va chercher ça loin, hein?
Ouais.
Alors, selon cette tradition restée vivace en Occident, la rate est l'organe qui produit la bile noire. Tu sais, se faire de la bile pour un rien.
Oui.
C'est un liquide, on disait, c'est l'humeur, qui fait naître la mélancolie. Et face donc à des situations, ben l'anxiété se manifeste par un malaise presque physique. On énumère toutes les possibilités, on est plein d'inquiétudes, on se montre incapable d'être satisfait de ce qu'on a réalisé. Et on se pose la question, comment lutter contre cette somatisation? On va même avoir des mots psychosomatiques. Hein? Peut-être en assumant son état et en puisant dans ses idées noires pour trouver des solutions originales, totalement singulières. Là, il y a Aristote qui s'en mêle. Il dit, ben écoutez, là, le conseil bien simple d'Aristote, ne cherchez pas à sortir de votre état d'esprit, mais profitez-en pour inventer des chemins qui n'appartiennent qu'à vous. Et foncez. Hein? Pourquoi pas? Il y a aussi une autre expression qui est du 20e siècle, se faire des nœuds au cerveau.
Oh, wow! Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cela, effectivement,
oui. Ah oui, bon, ben moi, c'est la première fois que je la voyais. C'est une
j'avais déjà entendu, ça fait un bout de temps, là.
Oui.
Je pensais que c'était un péronisme.
Non, non. Alors, donc, c'est au 20e siècle qu'on s'est apparu. C'est une formule qui apparaît à une époque où l'on découvre la complexité de notre appareil cérébral. Mais on s'ingénie à créer de nouveaux obstacles, finissant par tellement s'en mêler qu'ils ne peuvent plus rien faire ni penser. Alors, c'est nous qui pouvons ni faire ni penser de quoi que ce soit. Et Descartes s'en mêle. Il se dit, ben voyons donc, laissez tomber les idées obscures qui vous empêchent de sortir de l'embarras. Hein? Arrêtez de faire des nœuds dans votre cerveau. Se noyer dans un verre d'eau, ben, c'est mentionné dès le début du 18e siècle. Et ça suggère aujourd'hui l'état de celui qui se fait dépasser par les événements à la moindre difficulté. Et Hegel, le penseur, pour éviter l'immersion, justement, les moments qui bloquent ou qui font mal sont inévitables. Alors, il va d'un conseil très simple. Il faut parfois, sous l'orage, avant de parvenir au but souhaité, ben alors, si vous voyez un verre d'eau qui vous trouble, buvez-le. Donc, ça, tout simplement. Et finalement, se prendre la tête, c'est très années 80. C'est une expression qui signifie tout à la fois compliquer une situation au lieu d'agir et s'énerver, voire se disputer avec autrui. On s'irrite soi-même, on exaspère autrui par la même occasion, en se figeant dans une attitude qui est paralysante, où l'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et Spinoza nous dit que pour s'en sortir, il faut se déprendre la tête. Et le conseil tout simple de Spinoza, ne vous laissez pas déborder par l'irritation, la rancœur, la souffrance. Levez la tête, observez, réfléchissez et vous trouverez le bon chemin.
Wow. Mais en fait, se prendre la tête, tu vois, on se dit avant d'aller en onde, trouve donc des expressions, puis ça, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Je me prends pas la tête avec ça. Puis tu vois, ça m'est pas passé par l'idée de le dire. Puis je pense qu'on... des fois, on a trop de brou dans le toupet aussi.
Ah oui.
Et pour reprendre, j'ai parlé de péronisme. Pour ceux qui ne le savent pas, péronisme, c'est devenu une expression consacrée. Oui. Hein, c'est dans Wikipédia, d'ailleurs. C'est un ancien chroniqueur sportif ou un entraîneur de sport qui avait la manie de mêler toutes ces expressions-là. Puis une qui me vient en tête, c'est qu'il n'est pas allé avec le dos de la mer morte.
Il n'est pas allé avec le dos de la mer morte. Puis péronisme, M. Jean Perron, justement, l'ancien coach des Canadiens. Puis qui avait un restaurant, un petit casse-croûte très populaire à Chandler, puis qui a été mis en vente parce que il vit encore, je crois, avec une dame qui vient de la Gaspésie, puis a ouvert justement à l'époque un petit resto. Puis je pense qu'il est mis en vente parce que M. Perron est quand même plus âgé.
Oui, mais puis c'est on ne rit pas de lui, on rit avec lui en passant.
Avec lui, puis il doit être un homme très sympathique.
Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Daniel. On se revoit la semaine prochaine.
Oui, c'est un rendez-vous.
Merci. Après la pause, donc, Louis de Bernay, c'est la chronique de l'insolite. Puis on va parler aussi de la saison du théâtre du CEP, je vous dis, une saison qui s'en vient, qui s'annonce vraiment intéressante. J'ai hâte d'en parler avec Jean-Simon Traversy, qui est gros directeur artistique du Théâtre du CEP. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Allez, on va. La tête dans le sky. Aujourd'hui on taf. Ce soir on fly. Avion de papier. Embarque avec moi. Je te vois dans mon café. Maintenant on fait quoi? Ah non, c'est rien promis. Mais pour me rendre accro t'es doué. J'entonne avec le sourire. Je pense à comment on s'est trouvé. Mon soleil tu m'éblouis. J'étais dans la tête, je dois l'avouer. T'es ma chanson préférée. T'es ma chanson préférée. Pourquoi t'es toujours dans ma tête comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée.
Pourquoi t'es toujours dans ma tête comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée.
Aime-moi, donne-moi ton cœur. Hein. J'ai des vagues dans les veines ou de vie dans nos verres. C'est la vie d'Aloca. Hein. Avant j'étais dans, mais j'ai le feu dans les ailes. On plane, que t'as tombé dans le ciel. Toute l'année on chante, toute l'année on parle. Tant qu'on passe du bon temps, aucun plan c'est seul plein.
Le monde s'était promis pour me rendre accro t'es doué. J'entonne avec le sourire, on n'a plus rien à se prouver. Ton amour tu m'éblouis, j'étais dans la tête, je veux plus jouer. T'es ma chanson préférée.
T'es ma chanson préférée.
chanson préférée.
Aujourd'hui on taffe, taffe, ce soir on fly. Avion de papier, embarque avec moi. Je te vois dans mon café. Maintenant on fait quoi?
La chanson, ma chanson préférée de Rims, ou Rims et Emmanuel Carey.
Et c'est le temps de passer à l'insolite avec non moins insolite, non, il n'est pas insolite du tout, Louis de Bernis.
Oui, Denis Martin, on va parler aujourd'hui de science ou de presque science, on va dire, et des États-Unis.
De pseudo-science, allons-y.
Exactement, de pseudo-science.
Surtout quand il y a le mot États-Unis là-dedans, ça devient de la pseudo-science, mon Dieu, ok, j'arrête. J'arrête.
Parlons, eh bien, effectivement, vous le mentionniez en introduction, de ce qui pourrait ressembler à un scénario de Jurassic Park, hein, parce qu'on parle ici d'une compagnie américaine, Colossal Biosciences, qui est spécialisée dans la désextinction, c'est ce qu'ils disent, d'espèces animales disparues. Ils annoncent avoir franchi une étape importante dans leur projet de ressusciter le moa. Le moa, c'est un oiseau éteint depuis plus de 600 ans, aux allures gigantesques, hein, il faut imaginer comme une autruche, mais en beaucoup plus gros, dépourvu d'ailes, qui pesait jusqu'à 200 kg et pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Cet animal vivait en Nouvelle-Zélande jusqu'à l'arrivée des ancêtres des Maoris, il y a environ 750 ans, qui, en les chassant, ont probablement décimé ces oiseaux incapables de voler. La compagnie donc américaine, qui est habituée aux coups de communication spectaculaires, fondée en 2021 par un généticien renommé George Church et Ben Lam, un entrepreneur milliardaire, avait déjà promis, par exemple, vous en avez peut-être déjà entendu parler d'eux, promis de faire renaître le dodo, cet oiseau endémique de l'île Maurice, disparu à la fin du XVIIe siècle, ou même les mammouths laineux, espèce éteinte il y a environ 4000 ans. Donc voilà, c'est leur spécialité, c'est leur créneau. Cette fois-ci, la société biotechnologique assure être sur le point de redonner vie donc au moa, cet oiseau, grâce à la création d'une coquille d'œuf entièrement artificielle dans laquelle des poussins ont pu survivre, d'après un communiqué publié récemment transmis à la presse. Il s'agit d'une structure, en fait, l'œuf imprimé en 3D de forme ovale, recouverte intérieurement d'une membrane spéciale à base de silicone qui laisse passer l'oxygène, tout comme une véritable coquille d'œuf le fait. Pour donner naissance aux poussins de cette manière, les équipes de Colossal Bioscience ont versé le contenu d'œufs de poule fraîchement pondus dans les coquilles artificielles où les embryons ont continué à se développer. Les voir bouger dans leurs œufs artificiels, c'était absolument époustouflant, c'est félicité Andrew Pask, qui est directeur de biologie au sein de l'entreprise. Bon, de fait, la compagnie est quand même encore loin du compte, hein. Là, on a seulement fait grandir des poulets. Le moa pondait des œufs imaginés de 4 litres, plus gros que ceux de n'importe quel oiseau actuel. L'entreprise a déjà mis au point...
Je peux juste imaginer l'omelette que ça peut faire.
Oui, il faut une grande poêle, effectivement, et ça peut nourrir beaucoup de personnes. L'entreprise a déjà mis au point un prototype d'œuf 3D d'une taille comparable, de 4 litres, mais les obstacles sont encore nombreux. Comment parvenir à recréer une espèce dont le génome, largement inconnu, est impossible à reconstituer? L'ADN prélevé sur les ossements retrouvés est en effet encore incomplet. Il manque encore donc beaucoup d'étapes. Pour parvenir à leur fin, la compagnie devra modifier génétiquement une autre espèce d'oiseau, changer potentiellement des milliers de paires de bases d'ADN, enfin voilà, tout ça est très compliqué. Mais eux, dans leur plan, ce serait ça, ce serait de faire pondre à une poule un pseudo-moa, et l'œuf de poule n'étant pas assez volumineux, il faudrait ensuite transférer l'embryon jusqu'à ce qu'on éclosion dans cet œuf 3D. Les scientifiques ont été nombreux à réagir et à douter du sérieux de toute cette démarche.
Et avec raison.
Oui, puisque selon eux, ça n'aboutirait pas du tout au retour du moa, mais seulement à la création d'une espèce hybride un peu étrange, mélangeant des gènes de moa avec ceux d'autres oiseaux. Des critiques similaires avaient été émises pour chacun de leurs projets, en fait, hein, parce qu'on a l'impression qu'ils sont là surtout pour faire des communiqués de presse impressionnants et pas tellement pour aller au bout du processus.
Aller chercher du financement, puis voilà.
Exactement, ouais. Oui. Ils avaient, par exemple, en août 2025, créé la polémique en affirmant être parvenus à ressusciter le loup sinistre, un loup qui date d'il y a des milliers d'années. Ils avaient même présenté à l'époque 3 louveteaux à la presse. En réalité, après vérification, il s'agissait de loups gris avec quelques modifications génétiques, ce qui leur vaut d'être traités d'apprentis sorciers par un certain nombre de membres de la communauté scientifique. Laurence Reynaud, par exemple, maître de conférence en sociologie à la Sorbonne, s'inquiète des conséquences néfastes que pourrait provoquer la réintroduction d'espèces disparues. Qui sait ce que la réintroduction de certaines de ces espèces peut faire à un écosystème, premièrement? Et en plus, quel sera l'impact aussi sur nous, notre perception des extinctions? Est-ce qu'on se mettra à penser que finalement, saccager la nature n'est pas si grave puisqu'on peut la ressusciter plus tard? Ce serait un vrai problème également. Comme vous le mentionnez, effectivement, il y a beaucoup d'argent derrière tout ça, beaucoup de business. Beaucoup de scientifiques sont clairs et nets. Ils pensent que ces projets utopistes ne servent qu'à une seule chose, engranger un maximum de profits. Chaque annonce spectaculaire fait grimper la valeur de l'entreprise qui est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui suivent ça quand même. Pas sûr que ce soit suffisant, tout cet argent, pour faire de l'ombre à Jurassic Park, qui a le mérite de rester une fiction au moins et de rester sur nos écrans de cinéma.
10 milliards de dollars, si on investissait ça dans la vraie science, combien de maladies on pourrait peut-être guérir ou du moins essayer de trouver quelque chose? Mais là, ben non, on gaspille ça en dystopie. Et on s'en va maintenant toujours aux États-Unis. Un propriétaire de Tesla qui en a eu pour son argent. Pour son énergie, pour son électricité, quoi.
Oui, il a frôlé la mort, il faut faire attention quand même. Imaginez une voiture en train de rouler dans un lac, ce n'est pas banal. C'est pourtant le spectacle un peu inattendu auquel ont assisté certains riverains de Grave Pine, c'est dans le Texas, c'était mercredi 20 mai. Un conducteur de 70 ans est accusé par la police d'avoir intentionnellement conduit sa Tesla Cybertruck dans le lac de Grave Pine pour, d'après ses propres déclarations, tester le mode passage à gué proposé par le véhicule d'Elon Musk. Problème, après quelques mètres parcourus, et comme on aurait pu s'y attendre, la voiture est tombée en panne. Hein. Elle est restée bloquée au milieu de l'eau, à moitié immergée. Tous les occupants du véhicule, heureusement, sont parvenus à s'extraire de l'habitacle, à regagner le rivage, et il n'y a aucun blessé à déplorer, c'est l'essentiel. Mais la police est intervenue, ils ont interpellé le conducteur, qui, d'après des propos rapportés par NBC notamment, n'en serait pas à son coup d'essai. Il a assuré avoir déjà réussi à conduire sa Tesla dans l'océan Atlantique, on demande à le croire quand même. Le conducteur a ensuite déclaré avoir intentionnellement foncé dans le lac pour utiliser la fonction mode gué, comme si vous traversiez une petite rivière ou un petit cours d'eau. Parce qu'il faut le dire, le véhicule propose cette fonction-là, mais seulement pour les petites surfaces d'eau.
Pour conduire à Montréal avec les nids de poules, quoi.
Ça pourrait aider, effectivement. Le propriétaire donc, a été arrêté pour plusieurs infractions, et notamment des infractions avec le code nautique de la ville. Donc voilà. Pour sa voiture. Tesla rappelle bien sûr que dans son manuel d'utilisation, il est de la responsabilité du conducteur d'évaluer la profondeur du plan d'eau avant d'y entrer. Le Cybertruck, ce pick-up électrique fabriqué en acier et commercialisé, est vanté pour bien des choses, mais plus le temps passe et plus on découvre que quand même, ce n'est pas tout à fait un appareil très fiable.
Bon, aujourd'hui, les nouvelles étaient toutes les deux des États-Unis. Je pense qu'on pourrait rebaptiser la chronique. Ah, la dystopie.
La dystopie loufoque.
Merci beaucoup, Louis de Bernis. À la semaine prochaine.
C'est bien comment ça commence. D'abord, il fait la gueule pendant des heures. Des heures, des heures. Donc moi, je lui fais la gueule pendant des heures. Des heures, des heures. Qu'on apprenne à s'aimer autrement. Elle fout la mort. Est-ce pour de savoir qui a raison ou a tort? Quand je dis que je suis fou d'elle, elle me répond et alors? Foutez tout à la poubelle, Miami est mort. Frise de tête pendant des heures. Des heures, oh des heures. Frise de tête pendant des heures. Des heures, des heures. J'ai beau lutter mais ça recommence. C'est dommage. avec elle, c'est jamais le bon moment. On est plus ennemis qu'amants, c'est ce qu'on s'est dit fréquemment. Je veux m'exiler avec elle, devenir son médicament. La soulager pendant des heures, des heures, des heures. Isolée comme des naufragés pendant des heures.
La chanson des heures du groupe De Luxe.
Le Théâtre du CEP est une institution théâtrale incontournable à Montréal, il faut le dire, et elle vient de lancer sa programmation 26-27. Il faut le dire, hein, je pense que c'est la 54e saison, c'est quand même quelque chose. Alors, une saison qui est placée sous le signe d'un théâtre solidaire et rassembleur dans un monde fragmenté, on peut le dire. Pour en parler, je reçois le co-directeur artistique de la compagnie, metteur en scène et comédien aussi, Jean-Simon Traversy. Salut Jean-Simon.
Ben oui, merci pour l'invitation. Comédien, ça fait longtemps, là, par exemple.
Ben oui, ça fait un petit bout, là.
Oh, ça fait trop longtemps, là. J'enlèverai ça de mon CV, là. Plus metteur en scène, mettons.
Tu vas pas retourner sur scène?
Ah, mais c'est comme faire du BC, quand je dis souvent. Je pense que je serais capable, mais c'est le stress d'embarquer dessus, de savoir si je suis encore capable de faire ça.
Bon, OK, je l'enlève pour le moment.
Okay, merci,
on le met en parenthèse. Alors, 54e saison, ça, qui se veut un pari sur le rassemblement. Je pense que c'est important de le souligner face à l'actualité qui met notre solidarité drôlement à l'épreuve. Alors, comment les textes choisis vont créer un peu ou vont représenter cette vision?
C'est une bonne question. T'sais, à chaque année, on essaie vraiment de... Le théâtre, c'est du rassemblement. Quand on va s'asseoir dans une salle de théâtre, c'est ça qui est beau. On vient de finir Zéro de Manie Soleil Manlou là, en fin de semaine, hier après-midi.
C'est superbe à passer.
Ah, c'est tellement une bonne pièce. C'est tellement intéressant. Puis il est tellement drôle, Manie. Il est tellement habile sur scène. Puis il nous fait passer d'un état à l'autre. Mais là, je voulais m'en aller, c'est que de voir les gens dans la salle, c'est ça que j'ai trouvé beau aussi. On vient de finir Frère aussi juste avant. Oui. En fait, moi, ce que j'aime comme metteur en scène, c'est la relation entre la salle et la scène. Puis j'aime regarder en fait les gens écouter le spectacle, j'aime regarder les gens l'écouter ensemble. Donc le théâtre, c'est un effet de rassemblement. Donc chez DUCEP, on veut raconter des histoires qui vont faire que les gens vont avoir envie de se rassembler.
Mais je vais même dire, Zéro, c'était, je vais prendre un mot que les jeunes utilisent, c'est challenge. Ça nous mettait au défi pas mal.
Ah oui, t'as senti ça?
C'est pas un texte, c'est un texte qui est très drôle, livré de façon très drôle, mais où il y avait des choses qui frappaient, hein, les amalgames. Mais ça, je veux pas trop qu'on parle mais ça fait partie un peu, je pense, de ce que vous présentez chez DUCEP.
On essaie, tu sais, le théâtre de tout temps a été un endroit où on peut prendre position, on peut justement essayer de débattre, d'amener une opinion sur la scène, puis que les gens soient pas d'accord, mais donc d'avoir des méchants encore plus méchants, c'est ce qu'on veut faire. Donc Manie, en fait, lui, il a son opinion, il a son histoire qu'il nous raconte, puis en même temps avec son regard, ben il nous challenge comme Québécois, mettons, dit de souche là, tu sais, il nous challenge parce que lui, il fait, moi, c'est de là que je viens, puis moi je trouve ça beau en fait d'avoir ce genre d'histoire là. Maman, c'est une autre histoire aussi, c'est à travers une famille, mais on peut tous se reconnaître dans Frère ou dans l'écriture de Nathalie Doumar, tu sais.
Tout à fait.
On peut reconnaître des oncles, des cousins dans la manière de se parler en famille.
Mais particulièrement dans le monde dans lequel on vit présentement.
Ouais. Vraiment. Dans le monde dans lequel on vit, en fait, c'est ça, juste de se rassembler, d'être ensemble, d'avoir un peu d'espoir. Un des plus beaux commentaires qu'on a reçus à la fin de Frères de Nathalie Doumar, c'est que les gens ils disaient, je ressortais avec de l'espoir qu'on peut changer, qu'on peut justement, parce qu'à la fin, ça se terminait avec justement un des frères qui revenait auprès du père, puis qui s'excusait, tu sais, puis dans la vie, on peut s'excuser, on peut dire qu'on est désolé.
C'est le fun, hein, de pouvoir s'excuser, se pardonner. Puis moi, il y a une phrase que je vais me rappeler pour tout le temps.
Oui.
C'est que le père qui dit, je veux pas que mes fils grandissent pour qu'ils deviennent des hommes dont les femmes ont peur de se séparer ou qui n'ont pas peur de se séparer.
En plein ça. C'est tellement une phrase puissante, oui. Justement. Puis quand on laisse un silence après ça, justement, le moment de communion, là, dans la salle, de laisser ce silence-là résonner.
Ah, ça a vargé, oui. Ben, allons-y avec la prochaine saison.
Oui,
24 pauses portraits. C'est quand même une reprise mise en scène par la formidable Edith Patton. J'avoue que j'ai un petit faible pour son travail. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de reprendre le show?
On a souvent été près de la dramaturgie anglo-saxonne, de ce qui s'écrit donc en anglais, qu'on traduisait en québécois. Mais 24 pauses, on est aussi près en fait, des néoclassiques. Souvent, on dit on aime les classiques. On va faire un tramway nommé des autres, Tennessee, oui. Williams. Mais on aime ça aussi des fois, amener, en fait, ça va être la première fois que ça va être remonté 24 pauses à Montréal, donc après la diffusion qu'il y a eu au début des années 2000. Donc, on trouve ça, on appelle ça des néoclassiques. Comment une histoire va justement de tomber dans le répertoire, ben c'est en la remontant 15-20 ans plus tard. Et donc, on l'a relu avec David, puis ça mettait encore le doigt sur quelque chose dans cette relation-là. C'est une famille qui donne rendez-vous pour le 40e anniversaire du fils. On est en banlieue de Québec. On se dit plein d'affaires, mais on se dit rien en même temps. C'est à la fois très drôle, très touchant. C'est des personnages qui sont très extravertis, mais qui cachent un drame, puis le drame commence à prendre. Fait que c'est toute l'écriture de Serge Boucher qu'on adore. Puis tu sais, le rideau vert va monter aussi un texte de Serge Boucher en fin de saison, aussi un néoclassique, une pièce
de Hélène,
oui. Ouais, qu'on ramène quelques vingtaines d'années plus tard. Donc, c'est une brochette pour nous d'acteurs incroyables. Edith Patnaud, la directrice artistique d'Espace Go, c'est une metteuse en scène incroyable. Donc, on était contente de travailler avec elle. Puis, Guylaine Tremblay, qui reprend après le rôle de la fille, là, reprend le rôle de la mère, qui était défendue par Louison Dany à la création. Martin Drainville, Émilie Bibeault, Marc Beaupré, pour vrai, on a eu une première lecture. Puis, ça fait vraiment un plaisir. Donc, on veut vraiment commencer la saison avec ça après l'été.
Tu as mentionné un tramway nommé Désir, c'est quand même pas nouveau, on le voit souvent, ce show-là.
Oui.
Et ce spectacle-là, c'est toi qui vas le monter.
Avec Virginie Brunel.
Oui, et là, vous allez vraiment modifier des choses.
Bien, on essaye, mais il ne faut pas le dire trop fort, parce que, tu sais, dans le sens que les ayants droit, on respecte le texte là, vraiment de Tennessee Williams, c'est tellement une belle langue. Mais on avait travaillé ensemble, Virginie et moi, sur Royal, l'adaptation du roman de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Puis je dis souvent que ça avait été agréable et challengeant. Ça avait pris du temps à trouver où nos deux univers se rencontrent, celui de la danse contemporaine de Virginie, celui d'un théâtre plus réaliste qui est mon univers. Mais on a eu beaucoup de plaisir à trouver la zone où nos deux univers se rencontraient pour raconter une histoire. Et là, on avait envie de récidiver. Tiens, Tramway nommé Désir, c'est une pièce pour interprète. T'sais. C'est ça que moi, j'avais envie de monter. Après, on fait beaucoup de créations où on doute, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce trop long, est-ce qu'on coupe là-dedans? Là, la structure, elle marche. Les personnages sont clairs, on les connaît. Puis là, ça devient vraiment de la direction de l'acteur puis de la subtilité. Comment on peut aller ailleurs? Comment on peut aller au-delà du cliché de Stanley qui va crier Stella à genoux, genre dans la pluie, de l'avoir en Marcel en camisole. Donc, vraiment de travailler ça. Puis la danse va nous aider. Donc, sur scène, quatre interprètes incroyables. Gabriel Lemire qui va jouer Stanley, Chanel Mings qui va jouer Stella. Deux danseurs aussi. Donc, une de la compagnie de Virginie Brunel pour nous permettre de doubler le personnage de Blanche un petit peu qui est prise dans une bulle. Et une fanfare aussi qu'on fait parce que c'est la musique, c'est le sud des États-Unis. Dans les didascalies de Tennessee Williams, c'est toujours écrit. Il y a un piano au coin de la rue, on entend de la musique, les cuivres, donc la fanfare, les percussions, les cuivres, on en a envie de ça. Tous les ingrédients sont là, puis dans les prochaines semaines, on a des petits laboratoires pour voir comment ça se mélange bien.
J'ai hâte d'entendre la musique qui va peut-être nous rappeler aussi les rues de Nouvelle-Orléans.
Oui, de la Nouvelle-Orléans, on espère.
Prima facie à première vue, vraiment, voici une pièce là, qui touche une actualité très, très importante. On peut le dire, l'agression sexuelle, système juridique. Alors, pourquoi le Duceppe s'attaque à des enjeux? C'est quand même brûlant d'actualité. Là.
Mais c'est surtout une très, très bonne histoire.
Cette pièce.
Quand on l'a lu, là, c'est tellement bien écrit. On avait travaillé une pièce qui s'appelait Consentement. Notre première saison, ça fait déjà 9 ans qu'on est en poste. Donc, il y avait Consentement, une pièce qui parlait un peu de ça. Et aussi dans le système juridique des amis. Puis tout à coup, ça s'immisçait dans leur cercle d'amis. Là, c'est vraiment un solo spectaculaire, en fait, pour une actrice fin vingtaine, début trentaine, Valérie Telos, qui va le défendre ici. Louis-Carl Tremblay aussi, qui vient d'être nommé directeur artistique là, du théâtre Denis Petit, qui va faire la mise en scène. Puis on cherche toujours le geste artistique. Donc là, il va y avoir aussi une présence de musique, mais on ne peut pas en dire trop. Là, okay. On reviendra ou t'invitera Louis-Carl ou mon collègue David Lorrain qui va traduire la pièce à venir en parler. Mais c'est tellement une bonne histoire. On a quelqu'un qui nous parle, qui nous raconte début vingtaine, à quel point elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait. Et elle prend un plaisir aussi à mettre les gens face à leurs contradictions. Mais à un moment donné, ça va, un incident va arriver dans sa vie personnelle. Justement, elle va avoir une rencontre avec un collègue, une situation justement d'harcèlement, de violence sexuelle, et elle va devoir prendre place de l'autre côté à la barre des témoins cette fois-là pour raconter son histoire, mais en connaissant tous les mécanismes parce qu'elle-même étant très bonne pour faire ça. Fait que, bref, c'est vraiment une très très bonne histoire. C'est des courtes scènes très dynamiques menées par une actrice très forte.
La saison 26-27 accorde une grande place aussi à des œuvres de mémoire collective, hein, ou d'identité. On pense à Le fantôme dans la machine de Fanny Britt et Nous dans les plaines immenses d'Olivier Kemed. Je pense comme il faut.
Ben oui.
Parlons de ces propositions.
Ah, ben, c'est deux personnes qui sont deux dramaturges qui sont en résidence chez Duceppe. À chaque année, on a une personne. Donc, Fanny, ça fait vraiment longtemps qu'elle est en résidence, puis elle a voulu écrire cette pièce-là. Mais elle s'appelle Le fantôme de la machine parce qu'elle veut parler d'un sujet très personnel. Elle a perdu son frère dans un incendie alors qu'elle était très jeune, il y a une vingtaine d'années. Et elle a toujours voulu parler de ce sujet-là, mais elle ne savait pas comment. Donc, elle a commencé à écrire, à vouloir écrire, mais c'est comme s'il y avait un fantôme dans son ordinateur parce qu'à un moment donné, on a appris à la radio qu'elle avait perdu 60 pages de sa première version de texte qui était disparue de son ordinateur. Donc, elle l'a réécrit de mémoire. Elle parle justement de mémoire. Elle convoque aussi, un peu à la manière d'un Ouija sur scène, si vous aimez. Elle convoque trois frères différents, trois possibilités. Donc, le frère à l'âge où il est parti, début vingtaine, qui est défendu par Christophe Levac. Le frère idéalisé, Fanny est rousse. Son nom de famille, c'est Britt. Elle a des racines irlandaises. Mais un petit test, Ancestry, je ne sais pas si tu as déjà fait des tests de généalogie.
Jamais, mais je connais ça, oui.
Mais on prouvait que finalement, elle n'était pas si irlandaise que ça, puis elle est peut-être plus française que irlandaise ou britannique. Donc, elle parle un peu de ça, mais ce frère idéalisé-là serait directeur technique dans un théâtre en Irlande. Et finalement, le frère raté joué par Patrice Dubois, qui lui est juste un frère qui a pogné une mauvaise avenue. Donc, c'est Anne-Elisabeth Bossé qui joue un peu Fanny, qui convoque ces trois frères-là, qui reparlent. Donc, c'est comment de parler à ces fantômes, c'est comment de parler de ses mémoires, puis de s'identifier à qui on s'identifie quand on a perdu un frère très jeune. Puis, Olivier Kemed, il avait présenté chez nous, moi, dans Les ruines rouges du siècle, l'histoire de Sacha Samar, les 20 premières années en URSS, sa relation avec son père. Bien, là, c'est le tome 2, si on veut. Donc, c'est à partir du moment où il arrive ici. Une histoire d'immigration, quand tu arrives ici, puis tu parles juste ukrainien, puis que tu es acteur, comment tu travailles? Donc, c'est Wajdi Mouawad, le premier, pour la petite histoire, qui a donné un contrat dans 6 personnages en quête d'auteur aux 4 sous, et il avait appris sa seule réplique phonétiquement, qu'il disait de manière très maladroite, mais qu'il répétait sans cesse dans la pièce. Depuis ce temps-là, Sacha est devenu un acteur très important dans le milieu théâtral à Montréal, mais il raconte vraiment justement sa relation avec son propre fils quand les événements ont commencé en Ukraine au début des années 2010, la révolution, puis après ça, l'invasion russe. Mais son fils a eu envie d'aller se battre pour ce pays-là, qu'il n'a pas connu, mais qui savait que c'était le pays de ses parents. Donc, ça a confronté Sacha, qui quitte un pays, mais son fils veut aller se battre là-bas pour l'Ukraine. Donc, ça va être bien intéressant. Puis, Olivier Kemed, c'est un très, très bon auteur, metteur en scène aussi. C'est des vignettes, on raconte, puis... l'équipe autour de lui, si tu me permets, là, l'équipe autour de lui, c'est toutes des gens qui ont accueilli Sacha alors qu'il est arrivé ici à la fin des années 90. Marie-Thérèse Fortin, qui était alors directrice artistique du théâtre d'aujourd'hui, qui était la première à programmer, moi, dans Les ruines rouges du siècle. Éric Bernier, avec qui il a joué Éric dans justement le 6 personnages en quête d'auteur au 4 sous. Donc, il est comme bien entouré. Puis un peu comme dans Moi dans les ruines, c'est des personnages qui vont jouer plein, des acteurs qui vont jouer plein de personnages autour avec un Sacha narrateur.
Une belle saison. Il y a quand même deux choses que j'aimerais qu'on modifie. Il y a deux spectacles, Micheline et Baleine, dans une Formule 5 à 7. Ça, c'est quoi les Formules 5 à 7?
Ben, nous, non, j'adore ça. Dès qu'on est arrivé en poste avec David, on voulait installer les 5 à 7 qu'on avait développés à la Licorne sous la direction artistique de Denis Bernard. C'est à 5h30. Après le travail, venez. C'est une pièce de moins d'une heure. Donc, vous êtes chez vous, vous êtes sorti du théâtre à 6h30. Pour 32-33$ maintenant, on m'a dit, vous avez aussi quelque chose à consommer, une consommation, bière ou non alcoolisée, une petite grignotine, quelque chose à grignoter, puis une pièce dans la coulisse du CEP. C'est ça qu'ils font. On crée un petit théâtre de 80 places. Oui. On est très proche de la salle. Bref, les 5 à 7, on a deux beaux, là, Baleine puis Micheline. Venez voir ça.
Rapidement, on sait que Jeannette va revenir. C'est les dernières représentations?
Oui, elles sont part en tournée. Là. C'est un peu avec Primeur. Là, on va partir en tournée à l'automne 2027. Mais oui, c'est les dernières représentations là, en décembre 26.
Puis moi, j'ai une autre primeur à te demander.
Ah, ben oui, quoi?
Corps fantôme, ça va revenir? J'ai entendu dire que ça revenait.
Ça va revenir.
Bon, on a la primeur ici.
Oui.
Ça vient du, ça vient du patron. Ça revient quand? As-tu une idée?
Mais ça va être dans la saison 27-20, parce qu'on prépare une petite tournée en ce moment. Il y a Ottawa aussi qui est intéressé, Québec avec le Carrefour. Et on l'amènera à Montréal. Donc, très bientôt, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Jean-Simon, merci beaucoup d'avoir révélé certaines petites choses ici. Merci à ce micro. Jean-Simon Traversier occupe le poste de co-direction artistique du Théâtre du CEP aux côtés de David Lorrain depuis 2017. Ça va faire 10 ans l'an prochain.
Ça va faire 10 ans.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bonne journée.
Bon, j'ai le temps de faire une petite météo rapidement. Ben, le sud du Québec, c'est de la pluie intermittente et de la bruine qui va cesser progressivement dans le cours de la journée. Ça devrait être nuageux avec un petit peu de soleil cet après-midi. Ça se réchauffe, 22 degrés. C'est le même scénario, mais avec un petit peu de retard, donc plus en fin de journée pour la fin de la pluie. Nord du Québec aussi, ça demeure plus frais. L'est de l'Ontario, ben, il commence à faire soleil déjà. Et ben, c'est aussi plus chaud dans le sud, mais c'est vraiment l'ouest du pays qui a la chaleur. On parle de 24 à 30 degrés. Dans les prairies, puis dans la Colombie-Britannique, ben c'est de la pluie, plus de pluie que partout ailleurs, et avec des températures plus chaudes sur la côte et moins chaudes à l'intérieur. Bon, c'est plate comme ça. Après la pause, on va parler du Festival Transamérique et on va aussi parler d'un documentaire sur la solitude. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Quand vient le temps de chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage. J'essaie d'attraper les lueurs qu'il reste de ce que tu es. Quand la garde baisse et les cris s'enchaînent comme les éclairs que tu me lances en SOS, les cris reviennent sur terre. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. Les ombres mènent le bal sur tes pensées, celles qui éclipsent le chemin traversé. Les heures s'effondrent quand tu ne peux plus battre les fois qui font que ton cœur éclate. Et si on ne peut plus s'élever, je ne serai qu'une aile qui peut t'aider à voler. Je ne sais plus t'aider. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme
vient le temps de chasser les orages. Je perds le sens de ton plus grand voyage.
Cœur de pirate et sa chanson Château de sable.
Le Festival Transamérique déploie sa 20e édition qui commence donc le 28 mai jusqu'au 10 juin. La programmation propose 25 spectacles de danse, de théâtre en provenant de nombreux pays, incluant l'Argentine, le Mexique, Haïti, le Chili, la Bolivie, le Brésil ainsi que le Québec et le Canada. Encore cette année, la programmation semble inverser les perspectives traditionnelles en proposant un voyage artistique entre le Nord et le Sud. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on part du sud vers le nord, ce qui est intéressant. Bonjour, Jessie Mill, vous co-dirigez le FTA. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci de m'accueillir.
C'est un plaisir. Alors, le festival 2026 met de l'avant une sorte de continent inversé, comme j'expliquais. C'est qu'on va regarder les Amériques depuis le sud jusqu'au nord. Comment cette grille de lecture bouscule-t-elle notre rapport de pouvoir, de dynamique entre, tu sais, économique et culturel?
Cette carte inversée qui fait image, on s'est inspiré en fait d'une œuvre d'un artiste uruguayen pour la proposer, mais c'était surtout pour dire qu'est-ce que l'on peut penser si tout d'un coup on sort un peu de la dynamique nord-sud, surplombante souvent de notre regard occidental, et on constate les nouvelles manières de circuler qui existent dans les Amériques, entre les artistes, entre les communautés, et on repense aussi à ce grand morceau de terre comme un espace qui est délimité en un sens par un tas de frontières naturelles, les Andes, les Appalaches, les Rocheuses, le grand fleuve Amazon ou le fleuve Saint-Laurent, qui ont créé aussi des manières d'être au monde, ancestrales, autochtones, qui se sont parfois effacées à travers les actes de la colonisation, mais qui existent dans le temps, dans la mémoire, dans les traces de ce continent et qui aujourd'hui participent à le repenser dans toute sa complexité. Et donc, c'est à un continent, je dirais, redynamisé, un continent colonisé, mais qu'on cherche aussi à décoloniser, que nous avons communié dans les dernières semaines.
J'ai une blague en tête, mais c'est pas une blague, au bout du compte, non. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le « Make America Great Again », mais pas de la façon que le personnage orange le voit.
On n'aurait jamais utilisé cette expression-là, mais en effet... L'Amérique, ou ce que certains peuples autochtones ont appelé Abya Yala, c'est un ensemble géographique qu'on connaît tellement peu. Ouais. Et quand on se met à fréquenter d'autres communautés artistiques, d'autres cultures, il y a une richesse inouïe qui nous apparaît.
Tout à fait. Tout à fait. Au-delà des luttes territoriales et décoloniales qui traversent les œuvres, vous accordez une place immense au corps intime, à la physicalité brute. Puis je dirais même peut-être dire, parce que c'est ce que j'ai lu là sur l'abject, pourquoi proposer un tel défi dans le contexte actuel avec la montée des extrêmes droites qui accompagne, avec l'intolérance qui l'accompagne?
Je dirais que le festival est toujours partagé entre un rapprochement de l'intimité, de la singularité, de l'unicité des êtres. C'est vraiment une tentative de complexifier le monde, mais aussi une entreprise de collectivité et d'être ensemble. Et les mots que vous avez nommés, c'est un grand champ lexical qui dit beaucoup de choses, mais pour nous, ce qui est important, c'est de faire résonner et de faire entendre une grande, grande diversité et une multiplicité de voix et d'êtres. Et vous avez nommé notamment la question de l'abject qui renvoie au spectacle brésilien de Janaína Leite, Historia do Olho, Histoire de l'œil, d'après Georges Bataille. Oui, le corps abject aussi, parce que dans cette complexité, en effet, il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que du performant, il n'y a pas que du gracieux, ce qui est aussi présent dans le festival à travers un paquet d'œuvres, mais il y a la monstruosité humaine, il y a nos complexités, la possibilité d'un dissensus, et je pense que toutes ces réalités sont importantes aussi face à la montée de la droite et de la radicalisation aussi des positions et des idéologies.
Puis, de toute façon, l'art n'est pas là que pour nous flatter dans le bon sens du poil. Parfois, il faut que ça mettre un peu au défi nos idées préconçues.
Absolument.
Moi, j'irais parler d'un spectacle que je vais voir, mais j'ai beaucoup lu sur ce spectacle, qui s'appelle Bottommost d'Émile Pinault. Spectacle qui explore une chorégraphie s'inspirant de l'énergie sauvage des chiens. Je trouve ça très intéressant, la soumission et la complexité. Qu'est-ce que cette proposition dit sur notre besoin de redéfinir le consentement et les rituels qui est de rencontres anonymes? Parce que je pense qu'on est vraiment dans les applis de rencontres, des rencontres où on ne se connaît pas, là.
Mm-hmm. Bien, déjà, pour faire apparaître un peu le projet, Émile Pinault, c'est un artiste qui a un parcours de cirque avant d'arriver oui. vers la danse et de travailler aussi à libérer son corps des formations et des conventions qui lui avaient été inculquées et s'ouvrir à une autre manière de bouger en déhiérarchisant aussi les formes, les disciplines. Il travaille avec Baco Lepage-Acosta, qui lui aussi a un parcours un peu similaire comme interprète. Et les deux sont à la fois des partenaires de jeu et aussi des amis. Et c'est vraiment dans un travail fin de laboratoire, de mise en jeu, quelque chose de très ludique qui apparaît aussi. Et d'arpentage du sol, je dirais, parce que quelque chose qui se fait très proche de la terre dans cette interprétation canine, qu'ils et elles ont ensemble construit une manière de se respirer, de se sentir, quelque chose qui est de l'ordre de l'attraction et de la répulsion dans ce projet, et qui passe beaucoup par le flair, par l'odeur, par le rêche de la peau. Mm-hmm. Ils frottent leur cuir ensemble, on pourrait dire.
Ouais.
Et un travail de son qui est fait par Simon Poirier aussi, qui est assez fin, où il y a des microphones qui sont placés aux endroits les plus improbables de leur corps.
Ouais.
Et qui nous permettent aussi non seulement d'accéder à, l'énergie de ces deux corps-là, mais aussi au rayon autour d'eux, à l'aura qui les entoure, aux forces qui les dépassent, à ce magnétisme-là, sont posés sur des espèces de cartons qu'elles ont trouvés dans la rue. Il y a quelque chose vraiment de l'esthétique DIY et ils travaillent vraiment sur l'horizontalité face à un public qui est en grande proximité. Donc, nous, c'est comme si on participe aussi de ce champ magnétique de désir et de répulsion. Et il y a quelque chose de très contaminant dans leur manière de longer le mur et de se rapprocher de nous qui fait qu'on est réellement dans l'expérience sensible, sensorielle, au seuil de l'éros et de la brutalité.
Ça va tout un spectacle qui va remettre les choses en question chez les spectateurs.
Oui, Émile Pinault, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Il a fait juste avant une pièce qui s'appelait Rock Bottom, qui est assez connue dans la communauté queer de Montréal, puisqu'il y exposait son anus. Mais c'est vraiment quelqu'un qui réengage des méthodologies de travail queer avec beaucoup de force et qui nous aide, je dirais, nous, dans le sens des spectateurs, ces gens d'une communauté artistique plus large, à sortir des binarités, à trouver des formes de résilience dans ces approches queer.
J'aimerais qu'on parle rapidement de Querelle de Robert Val, qui était présenté au Théâtre du Trident, mais qui est repris donc au FTA. C'est un spectacle quand même où c'est assez frontal et assez incontournable. On parle de la violence comme outil d'expression. Est-ce que c'est tout ce qui reste aux minorités, qu'elles soient queer, autochtones ou ouvrières? Puis je pense que ça remet beaucoup de choses en question sur cette colère systémique que l'on vit dans certains milieux. Ça se retrouve au théâtre. Ça aussi, ça va être une pièce de théâtre, j'imagine, qui va être un petit peu... qui va mettre le spectacle, les spectateurs au défi?
Olivier Artaud, donc le metteur en scène qui dirige aussi le théâtre du Trident à Québec, en s'attaquant entre griffes au roman de Kev Lambert, avait déjà en tête que c'était vraiment une œuvre qui présentait d'énormes défis parce qu'elle a justement cette violence en elle. Et il a trouvé, avec sa dizaine d'interprètes et le collectif Opéra Pantomime Bop qui l'accompagne, des manières, des langages pour traduire cette violence-là. Donc, il ne faut pas craindre d'aller voir ce spectacle qui est aussi chargé de rire, d'humour, de grotesque et qui transcende toute cette, cette bave, ce sperme, ces fluides, cette douleur, avec aussi une poésie au plateau très forte. Et je vous dirais, ce qui est assez fascinant, c'est la distribution, c'est une distribution pan-québécoise, hein, parce oui. que plusieurs théâtres de Jonquière à Rouyn-Noranda qui ont été partie prenante de cette aventure de création. Et on a des actrices qui ont comme des histoires de corps très différentes, des acteurs autochtones aussi, oui. Qui sont chargés de cette adaptation des mots de Kev Lambert qui oscille entre une langue très belle, très littéraire et la langue de Robert Val, finalement.
Moi, j'ai vu la pièce à sa création à Québec, puis effectivement, c'est aussi très drôle. Oui. Je vais pas divulgâcher la finale, mais vraiment, c'est choquant, mais c'est très drôle aussi. J'aimerais terminer en te demandant, est-ce qu'il y a d'autres spectacles que tu voudrais souligner pour... je sais, on peut pas tout faire les 25, mais d'autres coups de cœur peut-être.
Bien, comme on a beaucoup parlé des spectacles queer qui aussi font une belle place à d'autres corps et à d'autres manières d'être au monde, je voudrais vous nommer The Romeo, mm-hmm. du chorégraphe Trajal Harrell, qui est un chorégraphe états-unien qui est beaucoup basé en Europe maintenant, qui est une autre grande, grande pièce de danse là, avec une douzaine d'interprètes qui va être présentée au Théâtre Jean Duceppe. Vous receviez l'un des directeurs juste avant. Et Trajal Harrell a, dans sa danse, des influences qui lui viennent à la fois des avant-gardes new-yorkaises, modern dance, du buto japonais, mais aussi du voguing, aussi de toutes sortes de danses populaires. Et là, il a cherché à inventer le Romeo, une autre danse qui serait une danse qui traverserait les siècles, qui nous survivrait, qui serait la danse des temps futurs et qui s'incarne dans cette panoplie d'humains et d'humaines, tous aussi beaux, aussi forts, aussi inspirants les uns que les autres. Donc, c'est du gros empowerment de la grâce, de la beauté et de l'émotion.
Wow! Ben, tout ça, c'est mieux si on peut voir toute cette information-là, votre programmation sur le site web du FTA, du Festival Transamérique.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
À très bientôt.
À bientôt.
Et je pouvais vraiment me perdre dans mes réflexions intimes. Et ça me faisait finalement sentir plus proche de moi-même. Ça nourrissait mon amour de moi.
Habitante lumineuse d'un village creux, en avance ébouriffée par nos nuances, une lourdeur dans les bras, vigoureuse même sur une pente descendante, même empêtrée dans nos délicatesses, on apprend à se déplacer, yeux fermés au-dessus des barrières, à poser le pied sans hésitation sur du fragile, du mouvant, être légère pour ne pas couler à pied.
On vient d'entendre un extrait du documentaire sonore, un documentaire qui explore la solitude sous toutes ses coutures, qu'elles soient intimes, sociales ou politiques. C'est une œuvre chorale bouleversante lancée par le collectif Tout ou Pantoute, intitulée « Pour essayer de m'entendre ». Pour en discuter, je reçois Laurie Perron, co-directrice du collectif et scénariste et réalisatrice. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Alors avant de commencer, c'est bien Eugénie Jodoin qu'on entend?
Eugénie Jobin.
Jobin, pardon, oui.
La musique, sur un texte d'Annick Arsenault.
Oui, j'allais demander qui était l'autrice du poème. C'est un projet, donc, comment s'est né ce projet de documentaire sonore? Enfin, on va expliquer c'est quoi un documentaire sonore aussi.
Oui, bien sûr. En fait, je co-réalise ce projet, je co-dirige ce projet avec ma collègue Alexandra Turgeon. Depuis plusieurs années, on fait ensemble, on a fait beaucoup du balado, donc un peu plus informel, disons, puis sur notre dernier projet, on faisait une saison balado, mais on a décidé de creuser vraiment du côté immersif, du côté narratif de l'œuvre, et ça nous a mené à vouloir explorer l'univers du documentaire, donc aller vraiment vers quelque chose de entièrement créatif, sans narration. Donc, c'est vraiment un documentaire comme on pourrait en voir à la télé, sans images. Les images sont créées par les sons. On l'a travaillé de la même façon, avec un scénario, avec ce qu'on voulait faire percevoir. C'est simplement qu'on l'a travaillé au niveau de la conception sonore avec notre conceptrice Sylvain Arnaud.
Donc, de quoi parle-t-on dans ce documentaire?
On parle de solitude sous plusieurs formes, sous les formes dont ont bien voulu nous parler les gens qui ont répondu à un appel de témoignage qu'on a lancé il y a environ 2 ans. On en parle, on la regarde, la solitude, on cherche pas à en faire un constat, on cherche pas à la dénoncer, à la fuir ou à l'amplifier, la mettre belle. On cherche juste à voir qu'est-ce que ça a fait vivre aux personnes à qui on a parlé à ce moment-là. Puis après, à générer peut-être des discussions entre les personnes qui l'écoutent, puis se rendre compte qu'on la vit toutes, de toute façon. On n'est jamais 100% seul à vivre notre solitude, donc ça vaut la peine de s'en parler aussi. Fait que je pense que c'est un générateur de réflexion et de discussion, j'espère.
Mais comment vous avez eu l'idée de parler de la solitude?
En fait, on en explorait plusieurs idées de sujets. Mais ce qui nous rejoignait toujours, c'est la solitude que devaient vivre les personnes dans les situations qu'on regardait. Et finalement, on s'est dit, cette solitude-là, elle appartient peut-être pas aux personnes elles-mêmes. Elle nous appartient à nous. Je pense que nous, on était dans des périodes de nos vies où on se sentait extrêmement seul. Et en même temps, dans mon cas, où je recherchais une certaine solitude parce que, bon, moi, j'ai des enfants, puis des fois, à travers la maternité, on n'a pas beaucoup de temps pour nous, pour respirer, pour exister. Fait que il y avait ce combo-là de avoir tellement peur de se ramasser complètement seul, puis à la fois en avoir tellement besoin, puis on s'est dit, ben, on n'a pas le choix. Faut le regarder, faut l'explorer, puis ça a donné ce projet-là.
Le regarder sans jugement, parce que pour certaines personnes, non, la solitude, c'est épouvantable, mais pour d'autres, c'est quelque chose dont on a besoin, effectivement.
Exact. Et parfois, pour la même personne, c'est les deux en même temps, oui. Ou les deux à la suite de l'autre dans différentes étapes de nos vies, là, c'est vraiment... C'est très large et complexe.
Alors, le documentaire donne la parole à 5 femmes au parcours très différent, touchant donc, comme on a dit, la maternité, au vieillissement, à la santé mentale. Comment ces récits individuels parviennent-ils à s'entrelacer? Parce que, je dois le dire, il n'y a pas vraiment de narration là, dans ce documentaire.
Il n'y en a pas du tout. C'était vraiment un travail quand même de longue haleine là, d'aller voir qu'est-ce qui se rejoignait dans ce que les personnes disaient, mais aussi essayer de pas non plus répéter, ressasser les mêmes éléments, donc passer d'un élément à l'autre le plus fluidement possible pour en faire un voyage intéressant. Mais comme on cherchait pas à faire une trame narrative qui nous amenait d'un point A à un point B, parce que c'est pas possible avec la solitude, on part peut-être d'un point A, on va peut-être à un point B, mais ça n'empêche pas qu'on peut retourner au A, au C, au D, on se promène. Donc comme on cherchait pas à faire ça, la construction du scénario a été quand même un défi, mais on se rend compte que chaque personne à qui on parle a des idées très éloquentes, des réflexions assez claires sur sa solitude et que ces visions-là se rejoignent sur assez de points pour qu'on soit capable de construire quelque chose de cohérent avec ça.
Je vais parler de Marianne Cazelot, qui est philosophe féministe, qui aborde donc ce qu'elle appelle l'ambiguïté de la solitude, hein, aussi entre injustice sociale et l'émancipation personnelle. Donc, on venait d'en parler aussi. Comment l'approche féministe se déploie-t-elle à travers cette tension?
C'est une excellente question. J'aurais bien aimé que Marianne soit là pour la développer.
Ça va être prise avec la question, Laurie.
mais dans tous les cas, je pense que c'est à peu près dans ce qu'on disait à l'instant, c'est sûr qu'au niveau du féminisme, ben on recherche aussi une façon de s'exprimer pleinement, oui. D'exister pleinement, qui peut entrer en contradiction justement avec des éléments comme je parlais de la maternité ou juste la façon dont la société nous met sur le dos quand même plusieurs charges de care et de soins et tout ça qui font en sorte qu'on n'a pas toujours l'espace de penser à nous. Fait qu'il y a ce côté-là, mais il y a aussi tout ce qui peut naître de la solitude créativement en termes de réflexion, en termes même de réflexion très simple sur notre propre vie, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins, nos désirs. Fait que c'est toujours ce balancier-là qui existe, je pense, en chaque personne, mais qui a, comme je disais, comme on le dit, je pense, dans le documentaire aussi, des implications peut-être spécifiques pour les femmes et les personnes de la diversité sexuelle.
J'aimerais qu'on parle de Lise, parce que c'est vraiment un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Lise qui parle de sa rupture amicale et de sa détresse psychologique.
Oui, Lise parle surtout d'échecs amoureux. Lise, qui est notre écrivaine.
Excuse-moi, Lise, oui. Oui,
c'est ça. Mais il n'y a pas de problème.
C'est Naila, je mêle les noms, ça m'arrive. Naila qui parle de sa rupture amicale et psychologique, oui.
Oui, Naila nous parle de ça. Naila vit avec des enjeux de santé mentale. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement difficile parfois de se sentir compris. Là, si je parle de moi-même en même temps un peu, de se sentir compris quand des fois on a de la misère à se comprendre nous-mêmes, de se sentir exister puis perdre des gens dans ce contexte-là, des gens qu'on sent qui sont pas capables d'être là pour nous ou qui n'ont pas les outils, c'est sûr que c'est blessant, c'est difficile, ça fait tellement se sentir seul. Quand on a des gens proches de nous qui ne sont plus capables d'être avec nous, c'est un immense deuil, c'est assez tragique comme situation. Puis elle a trouvé dans cette solitude-là imposée par la situation une façon de justement se découvrir, se reconnaître elle-même. Donc, on est exactement dans cette ambiguïté qu'on disait tantôt, tu sais, la solitude est subie, mais les outils qu'elle y trouve, finalement, l'amènent vraiment ailleurs, puis c'est intéressant de l'entendre parler de ça.
Oui, il y a beaucoup de lumière dans ce témoignage. Malgré le fait que c'est très touchant, j'ai beaucoup aimé, il y avait quand même de la lumière qui venait avec ce témoignage. Mais justement, on va retourner à Lise, parce que j'ai inversé les noms sur ma feuille, excuse-moi. Alors, Lise qui parle de sa rupture amoureuse. Et ça aussi, oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée.
Oui, vraiment, ben oui, parce que des fois, on se fait des idées de ce que sera notre vie. Tu sais, Lise, en plus, est écrivaine, elle conçoit des récits, c'est son travail, c'est sa façon de voir la vie. Elle avait une vision de la famille qui, finalement, ne s'est pas réalisée suite à un échec amoureux. Donc, a vécu la maternité avec ses deux jeunes enfants dans une solitude assez profonde, mais a réalisé aussi énormément de choses seule, ce qui est un super beau récit d'autonomie aussi, puis de des fois de dépassement de soi, mais des fois de découverte de soi, puis à travers ça, se trouver des moments de solitude pour écrire à travers sa solitude qu'elle n'avait pas choisie. C'est une grande soupe de solitude qui amène un peu de tout, mais c'est magnifique comment elle en parle, puis on a accès à la fin du documentaire à un texte qu'elle a écrit aussi sur le sujet, et c'est en tout cas un de mes moments préférés personnellement de l'œuvre.
C'est vraiment un documentaire qu'on écoute avec des écouteurs et en stéréo. Puis bon, on met une pause de temps en temps quand on a le temps, quand on a besoin de se remettre. Mais c'est un beau documentaire, tout en douceur, je dois dire. J'aimerais qu'on parle de tout ou pas tout. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais on se définit donc comme un collectif d'art audio queer féministe. En quoi la représentativité territoriale? Parce qu'il y a beaucoup de gens de régions là, qui sont là. Et l'attention portée aux communautés rurales et même, je dirais, aux communautés queer influence l'environnement sonore de tout ce projet en général.
Les sons du projet viennent de partout, mais nous, on vient de partout. Alexandra vit de l'Abitibi, je viens du Lac-Saint-Jean, elle habite présentement le bas du fleuve. En grandissant, le manque de représentation des réalités régionales était vraiment omniprésent. Puis quand on a lancé ce projet-là, c'était ultra important pour nous d'avoir des voix de partout. Puis surtout que les discours qui sont souvent universitaires et montréalocentristes, féministes et de réflexion, ils sont accessibles puis ils se développent pas juste à Montréal, ils se développent partout. Puis c'était de mettre ça de l'avant puis d'en discuter honnêtement de toutes les approches distinctives de des différentes régions qu'on traverse.
Mais je vais rappeler à tout le monde que le documentaire audio qui s'appelle Pour essayer de m'entendre est disponible dès maintenant sur le site toutoupantoute.com, là, tout en un seul mot, mais on peut le trouver sur Apple Balado, Spotify et d'autres sites de téléchargement, ainsi que toutes les balados, parce que je vous écoute aussi régulièrement, qu'on peut retrouver donc sur ces plateformes de téléchargement. Laurie Perron, merci beaucoup.
Un grand merci à vous.
Merci.
Bonne journée.
Juste le temps de vous dire merci beaucoup, merci à l'équipe et je vous retrouve à 17h ce soir à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci à Mathieu Tessier, merci à Alain Denis qui sera de retour demain.